Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au micro, Blaise Chindani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Le forum provincial consacré à la problématique des rebelles des ADF s'est ouvert ce lundi matin à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Ces travaux de 3 jours qui visent à analyser le phénomène ADF et à proposer des réponses durables en faveur de la paix ont été officiellement ouverts par Aimé Boji Sangara, président de l'Assemblée nationale. La CENI clôture ce lundi 23 février à 16h. BRTC de Lusambo, l'opération de dépôt des dossiers pour les postes de gouverneur et vice-gouverneur du Sankourou. Au total, 10 dossiers ont été enregistrés. Parmi elles, 3 femmes, dont une ancienne ministre du genre, famille et enfants. La présence massive et diversifiée des groupes armés dans les territoires de Fidji impacte négativement l'écosystème de cette entité de la partie sud de la province du Sud Kivu. La faune et la flore sont détruites par ces groupes armés pour assurer leur survie. Pour en parler, nous recevons l'administrateur du territoire de Fidji, Sami Kalonji Badibanga. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Le forum provincial consacré à la problématique des rebelles des ADF s'est ouvert ce lundi matin à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Les travaux prévus pour 3 jours ont été officiellement ouverts par Aimé Boji Sangara, président de l'Assemblée nationale. Ces assises visent à analyser le phénomène ADF et à proposer des réponses durables en faveur de la paix alors que les exactions contre les civils persistent. La cérémonie d'ouverture a également réuni la chef de la police de la MONUSCO, par ailleurs, représentante spéciale adjointe par intérim du secrétaire général de l'ONU en RDC, Maïmouna Ouédraogo, mais également l'ambassadeur de Belgique ainsi que des représentants des missions diplomatiques accréditées en RDC. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Concernant justement ce phénomène ADF, au mois de janvier dernier, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence Ebouteli avait déjà publié un rapport intitulé « Survivre et tuer ». Ce document expliquait comment ces forces démocratiques alliées ADF, une rébellion islamique d'origine ougandaise, est venue s'installer exclusivement sur les territoires des Beni depuis 1995. Ce rapport démontrait aussi comment ces rebelles ont développé des solides relations avec certaines communautés locales dans cette partie de l'Est de la RDC. À partir de 2019, ils ont progressivement fui vers les territoires d'Irumu, puis de Mambasa et enfin Lubero en continuant à perpétrer des massacres à la suite d'opérations organisées contre elles par les forces armées de la RDC, puis de manière encore plus nette et rapide à partir du début de l'opération conjointe des FARDC et de l'armée ougandaise. Benjamin Mudumbi revient sur ces rapports.
Ce rapport d'une trentaine de pages intitulé « Survivre et tuer » constitue une étude des cas des stratégies d'adaptation d'un groupe extrémiste violent lorsque confronté à des opérations militaires. Il explique notamment comment les ADF ont fui de leur bastion, les territoires des Beni, vers la province des Litouri et d'autres territoires nouveaux pour eux. Ces documents soulignent que les groupes islamistes ont perpétré des massacres à grande échelle dans ces nouvelles zones d'influence. La logique de ces massacres n'est pas fondamentalement nouvelle, note ces rapports. Depuis 2013, ces groupes sont responsables des centaines les violences les plus atroces commises en RDC, perpétrées pour recruter et zapper la légitimité du gouvernement qui les combattent, selon toujours ce même rapport. Cette violence a permis également au groupe d'endoctriner davantage ses propres combattants. L'irruption des ADF dans les territoires d'Irumu, Mambasa et Lubero explique aussi la présence d'autres groupes armés mais identifiables qui compliquent aussi les opérations. Certains d'entre eux, comme les Mai Mai Kiandenga, sont accusés de complicité avec les ADF. D'autres, comme les Fronts Patriotiques pour la Paix, se présentent comme protecteurs des populations population civile. C'est pourquoi ces rapports recommandent au gouvernement de la RDC et de l'Ouganda, entre autres, de mieux prendre en compte la nécessité de la protection des civils en intégrant les forces de proximité dans les zones vulnérables aux incursions des ADF formées et équipées pour y faire face. Et au gouvernement de la RDC de lutter plus efficacement contre les trafics d'armes et autres activités illicites au sein des FRDC en vue de lutter efficacement contre ces ADF.
Dans le même registre, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans le sud du territoire du Rumu en province de l'Ituri. Les attaques attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF continuent d'affecter non seulement la population civile mais aussi l'économie locale. Des paysans abandonnent leurs champs, les commerçants hésitent à investir et la crainte d'une pénurie alimentaire se profile. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Les attaques répétées des rebelles des ADF, notamment dans la zone de Banda Vilemba, paralysent l'agriculture et les petits commerces. D'après des sources locales, plusieurs paysans ont abandonné leurs champs, comme le confirme également cet habitant jouant au téléphone.
Les gens ne produisent plus assez de haricots à cause de l'insécurité. Malgré cela, les gens s'efforcent de récolter tant soit peu. Et même si on arrive à ramener cela à la maison ou trouver des acheteurs.
La dernière attaque remonte à samedi dernier au village de Boutani où 3 motos ont été incendiées et les habitants pris pour cible. Une situation qui décourage également les petits commerçants. Christophe Mianderou, un activiste des droits de l'homme dans la zone, alerte aussi les conséquences économiques.
Les boutiques et kiosques qui ne fonctionnent plus, on peut ouvrir toute une journée, mais trouver celui qui pourrait acheter ne fût-ce que quelques articles, c'est un peu difficile. Ceux-là qui avaient déjà flagellé leurs haricots, pour le moment il n'y a pas le marché, tout le monde craint de mettre son argent dans le commerce parce qu'on ne saura pas quand l'ennemi pourrait arriver.
Face à cette insécurité persistante, les habitants appellent les autorités à renforcer urgentement les mesures de protection afin de relancer les activités agricoles et commerciales. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Sécurité encore en territoire de Massi sur Nord Kivu. Les affrontements opposant l'AFC M23 à une coalition des miliciens Wazalendo se sont poursuivis dans la matinée de ce lundi. D'intenses combats ont été signalés autour des villages Kawele et Mololo dans le groupement de Kibabi, chefferie de Baoundé, à une dizaine de kilomètres de la cité minière de Rubaya. Cela fait plus de 5 jours que les hostilités se poursuivent dans cette zone, forçant de nombreuses familles à se déplacer vers l'est du territoire. Les détails avec vous, John Chibouaboua.
Selon des sources issues de la notabilité du territoire de Masisi, les combats ont repris à l'aube autour du village de Kawere, non loin du centre de Kibabi. Elle indique qu'à l'issue des affrontements particulièrement intenses depuis vendredi, le milicien Wazalendo, parmi lequel des combattants Pareko, Maimai Lamuka et Raia Mutomoki, ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs villages situés sur l'axe Katoi-Kibabi-Rubaya. Près de 8 villages ou positions auparavant tenues par l'AFC M23 seraient ainsi passés sous leur contrôle. Sur l'axe Ngungu, ces mêmes combattants Wazalendo avaient déjà regagné le village de Nyakigano et Musherebe situé à proximité immédiate de cette agglomération. Cependant, depuis dimanche, des sources civiles locales font état d'une contre-offensive de l'AFC M23. Jusqu'à tard dans la soirée, des affrontements étaient signalés dans le village de Luke à moins de 50 km de Masisi centre. Et ce lundi matin, le combat s'est concentré de nouveau autour de la colline de Kanyuru et des villages Kawa et Mululu dans le groupement de Kibabi. Cette recrudescence des violences provoque un déplacement massif des populations vers Rubaya et Ngungu.
Au sud Kivu voisin pendant ces temps, le calme est revenu ce lundi dans la cité de Kavumu après une paralysie totale des activités la veille. Ce matin, le transport a repris et les écoles fonctionnent à nouveau, même si la population reste visiblement traumatisée. Des échanges de tirs entre les Wazalendo et les combattants de l'AFC M23 ont fait 4 morts dimanche 22 février 2026 dans la ville de Kavumu. Un habitant qui a préféré garder l'anonymat est revenu brièvement sur la situation qui a prévalu dans cette partie du territoire de Kabaré, située à 30 kilomètres au nord de Bukavu.
Il est vrai que depuis 5h45 à Kavumu, nous avons entendu des coups de balles. C'était entre les Wazalendo et les militaires de l'AFC M23. Normalement, toute la journée, nous avons été terrés à la maison. Il n'y a pas eu de fidèles qui se sont dirigés à l'église, au marché, au parking. Rien n'a fonctionné. Mais c'est juste vers 12h que le calme est revenu. Le calme est revenu et jusqu'à 7h, il n'y a pas de problème. Avant que les éléments Ouazalendo ne se retirent, ils se sont retranchés, je ne sais pas jusqu'où. Dieu nous fait grâce, on est là.
Kavumu est un milieu stratégique qui abrite l'aéroport qui porte le même nom. Je le disais en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI va clôturer ce lundi 23 février à 16h au bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC de Lusambo, l'opération de dépôt des dossiers pour les postes de gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru. Lancée le 4 février 2026, cette étape visait à permettre aux aspirants au gouvernorat de province de soumettre leurs dossiers auprès du secrétariat exécutif provincial de la CENI. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au total, 10 dossiers ont été enregistrés. Parmi elles, 3 femmes, dont une ancienne ministre du genre, famille et enfants. 2 anciens gouverneurs figurent également sur la liste. Une présence qui alimente déjà les débats sur ce qu'ils comptent proposer de nouveau après leur précédent mandat. 4 députés provinciaux ont déposé également leur dossier, l'un pour le poste de gouverneur titulaire et 3 autres pour celui de vice-gouverneur. La suite du processus électoral prévoit des ajustements possible ajout, retrait ou substitution des dossiers avant la publication le 4 mars prochain de la liste provisoire des candidats. Initialement prévue le 24 mars, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru se tiendra finalement le 7 avril prochain selon le calendrier réaménagé de la CENI. Au-delà des chiffres, cette échéance électorale cristallise les enjeux politiques locaux, retour d'anciens dirigeants, émergence de nouvelles figures et participation féminine encore limitée mais symbolique. Les députés provinciaux auront la responsabilité de trancher sur l'avenir de la gouvernance dans une province où les atteintes citoyennes demeurent fortes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Une clinique universitaire sera bientôt implantée à Kisantu dans le territoire de Madimba pour le compte de l'Université Congo dans la province du Congo central. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée dimanche après-midi à Mbanzangungu. Elle procédera ce lundi 23 février à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction de cette nouvelle formation médicale. À travers cette activité, la chef du gouvernement affirme concrétiser la promesse faite l'année dernière lors de sa tournée dans le cadre de la campagne congolais Téléma. Dans son adresse devant la foule qu'il a accueillie, Judith Suminwa a indiqué que cet ouvrage offrira un meilleur cadre d'apprentissage aux étudiants, favorisera la recherche scientifique et contribuera à améliorer l'offre de soins dans le Congo central. Nana Plurich Mambo.
La future clinique universitaire sera implantée à Luango, une agglomération située à quelques encablures de la cité de Kisantu, dans les territoires de Madimba. L'établissement portera le nom de Judith Suminwa, en hommage à son élévation au rang des premières femmes premières ministres de la République démocratique du Congo et première personnalité issue du Congo central à occuper cette fonction. Porté par l'Université Congo basée à Mbanzangungu, le projet prévoit la construction d'une polyclinique de 3000 lits intégrant l'ensemble des services médicaux nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Il offrira également un environnement adapté à la formation et à la recherche destinée aux étudiants en médecine. Le coût global du projet est estimé à 6,7 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 2,5 millions de dollars pour l'acquisition des équipements médicaux. Les travaux du premier module devraient durer 1 an et 6 mois. Au-delà de cette polyclinique, l'Université Congo projette un vaste complexe médical dont la réalisation complète s'étendra sur 5 ans pour un budget estimé à 50 millions de dollars. Une collecte servira à mobiliser 40% des fonds, tandis que 60% seront ouverts à l'investissement des volontaires qui deviendront copropriétaires du projet. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a signé vendredi 20 février un contrat stratégique avec l'entreprise DRC Gold Mining SA pour renforcer la constitution des réserves de la RDC en or monétaire. Selon André Wameso, il s'agit d'une étape majeure inscrite dans les prérogatives de la BCC pour consolider la stabilité macroéconomique et l'indépendance monétaire de la RDC. Aussi, précise-t-il, une diversification de réserves d'échange permettra de lutter contre l'inflation et les crises géopolitiques et atténuera les risques liés à la dévaluation des devises fiduciaires. Les propos d'André Wameso ont été sélectionnés par Blaise Ndongala Mayanda.
La Banque centrale du Congo a depuis quelques mois repris les réflexions sur la constitution des réserves en or monétaire et nous sommes rapprochés naturellement de l'entreprise nationale, donc qui appartient à 100% à l'État congolais, qui dans ses activités-là, notamment avec de l'or artisanal, pour voir dans quelle mesure nos orpailleurs peuvent profiter par leur travail qui doit être évidemment encadré grâce à DRC Gold Trading et que nos orpailleurs, c'est-à-dire nos citoyens congolais, contribuent à l'augmentation de nos réserves en or monétaire et qu'ils contribuent eux-mêmes en tant que citoyens à la stabilité monétaire et finalement la stabilité financière de notre pays. Et c'est comme ça que, avec tout ce qui se passe dans ce secteur, la Banque centrale a voulu se positionner comme le principal off-taker de l'or produit par nos creuseurs artisanaux au travers de la société DRC Gold Trading.
Ce contrat avec l'entreprise DRC Gold Mining SA, société congolaise à 100% avec l'État comme actionnaire majoritaire, a été signé en présence de la ministre du portefeuille, Julie Chikou.
Actualité internationale.
Le dossier du Sahara occidental est au cœur d'un nouveau round de négociations organisé à Washington du 23 au 24 février 2026. Les États-Unis accélèrent la cadence. Deux semaines après une première réunion tenue à l'ambassade américaine à Madrid, Mossad Boulos, émissaire de Donald Trump pour l'Afrique, réunit cette fois dans la capitale américaine le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Fonds Polisario.
L'invité.
La présence massive et diversifiée des groupes armés dans les territoires de Fizi impacte négativement l'écosystème de cette entité de la partie sud de la province du Sud-Kivu. La faune et la flore sont détruites par des groupes armés pour assurer leur survie. L'administrateur du territoire de Fizi brosse un tableau sombre de l'aspect environnemental de sa juridiction. Sami Kalonjibadibanga est notre invité. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur l'administrateur du territoire des Fizi, Sami Kalonjibadibanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, le territoire des Fizi renferme-t-il la même fraîcheur qu'on y a connue il y a quelques années?
Pendant plusieurs années, le territoire des Fizi, c'est un territoire martyr, un territoire sinistré. C'est depuis 1964 que ce territoire a connu plusieurs guerres qui ont retardé son développement et mis à mal le décollage socio-économique de ce beau territoire. Voilà qu'avec ces différentes guerres, Fizi a connu le pillage de ses ressources naturelles et aussi la destruction de sa faune et flore. Avec la prise de Bukavu, et la prise de la ville d'Uvira, le territoire de Fizi a connu plusieurs difficultés socio-économiques, voire même environnementales et qui ont négativement impacté l'écosystème de ces territoires.
À quel degré la présence des groupes armés et des combats à répétition impacte-t-il l'environnement dans les territoires de Fizi?
Vous savez qu'à Fizi, nous avons la réserve d'Enganja. Nous avons aussi la forêt de Mabondo, communément appelée la forêt Ewabora, dans le secteur de Lulenge. Dans cette forêt, nous avons plusieurs groupes armés, notamment le Raid de Tabara, les FNL de Zabampema, qui vivent et exploitent de l'or, coupent le bois rouge, et aussi les autres bois pour la fabrication de braises. Cette situation a un impact négatif sur l'écosystème, avec la dégradation de l'environnement. Avec la destruction de l'écosystème, l'abattage abusif des arbres sur toute l'étendue du territoire de Fizi, nous avons connu plusieurs catastrophes naturelles, notamment la plus grande catastrophe naturelle de Kassaba, où plusieurs victimes avaient été ensevelies dans la boue suite au glissement d'un grand morceau de terre. À Kassaba, nous avons enterré plus de 12 enfants d'une même famille à Kimino, suite aussi à l'écoulement des morceaux de terre près d'une école conventionnelle catholique en Kelecha. Nous avons connu les vents violents qui ont emporté des maisons à Mukera, à Kananda, voire même à Fizi Centre. Nous avons connu la crue de rivière sur le littoral du lac Tanganyika, précisément à Kazimia, où les maisons avaient été emportées et des personnes ensevelies, des champs détruits par cette situation. Et aussi pour les gens qui traversent la rivière Mutambala vers le chef-lieu du secteur de Mutambala à Malinde, sur le pont, la rivière est en train de se rétrécir, parce que quand vous voyez la rivière à l'époque, c'était une grande rivière. Pour le moment, la rivière est en train de devenir beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce qu'en amont de cette rivière, il y a une exploitation. Pendant cette période de guerre, certains groupes armés trouvent une occasion d'exploiter le bois rouge le plus recherché, abattage abusif des arbres pour fabriquer des braises, commencer aussi à exploiter de l'or. Quand ils trouvent qu'un espace est occupé par un grand gisement d'or, ils sont obligés d'amener des machines qui doivent leur permettre d'abattre les arbres pour arriver à exploiter facilement de l'or dans notre territoire défisé.
Quelle voie de sortie serait-elle envisageable pour que Fizi recouvre encore aujourd'hui la plénitude de son écosystème?
L'écosystème du Toto de Fizi est en danger. La biodiversité est détruite. Fizi était connu pour sa faune et sa flore très riche. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Fizi, la faune n'existe pas parce que les animaux que nous avions à l'époque qui faisaient la fierté du territoire de Fizi, notamment l'hyène, les éléphants, n'existent plus parce qu'ils ne trouvent pas leur habitat naturel et qui est les arbres et les herbes. Toute cette forêt est détruite par les groupes armés. Voilà, aujourd'hui, les animaux n'existent pas à Fizi. Et ceux qui existent vont plus loin dans les territoires voisins où ils peuvent facilement trouver la bonne herbe pour leur alimentation. Nous avons aussi la flore où on pouvait trouver de belles fleurs, des arbres médicinaux, mais pour le moment, ça n'existe pas.
Sami Badibanga, merci.
C'était donc notre invité Sami Kalonji Badibanga. Il s'entretenait avec Jean Kassami et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota Chivueta et supervisé par Lévin Mbuingavubu. La mise en onde était assurée de main de maître par Pierre Diassinois. Vous pouvez retrouver ce journal sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.